Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et ce débrief de la tech avec nos invités. On a beaucoup de sujets dont on va parler. L'autorité de la concurrence, je dis à l'enfant, il y a un instant, qui lance une alerte sur l'IA. Il y a eu beaucoup d'auditions et puis ça suit un peu ce qu'a fait la FTC américaine, la CMO britannique aussi. Alors, est-ce que OpenAI, Microsoft, Anthropic, Amazon, notre Mistral, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de concurrents? Il n'y a pas, peut-être pas assez de concurrence. En tout cas, c'est ce que se dit l'autorité de la concurrence. On va en parler. On va parler aussi, tiens, en parlant de concurrence, eh bien, c'est l'Union européenne qui estime que Meta, avec Facebook et Instagram, viole les règles sur les données personnelles en donnant, vous savez, ce petit abonnement payant où, du coup, on ne reçoit pas de pub. Et bien là, il y a des choses que l'Union européenne n'aime pas trop dans le cadre du DMA. Alors, l'Union européenne qui est quand même assez agressive en ce moment. C'était Apple la semaine dernière, c'est Meta cette semaine. On parlera aussi de l'impact des législatives sur les entreprises, sur la tech française. On reviendra aussi sur ces partenariats entre Apple. Alors, Apple et OpenAI, on le connaît, mais maintenant Apple et Google Gemini. En attendant Apple et Anthropic. On va essayer de comprendre un peu tout ça. Et puis, tiens, en fin de débrief, on parlera encore d'Apple avec des AirPods qui intègrent une petite caméra infrarouge. On essaiera de comprendre pourquoi. Et puis, Meta, décidément, c'est les deux acteurs du soir qui fait le teasing de ses futures lunettes holographiques. On va parler de tout ça avec nos invités. Damien Douani, bonsoir.
Bonsoir, Fred.
Damien, responsable de l'innovation de l'école narrative avec deux I et fondateur du cabinet de conseil Lab 36. À tes côtés, Alain Goudet. Bonsoir, Alain.
Bonsoir, Fred.
Merci d'être avec nous, directeur général adjoint de Neoma Business School et au fait de toutes ces activités. Je vous conseille toujours le compte X d'Alain qui vous donne vraiment l'actualité au jour le jour. Il nous fait même un débrief à la fin de la semaine sur toutes ces actualités et son analyse autour de l'intelligence artificielle. Puis avec nous également Hugo Weber. Bonjour Hugo.
Bonsoir Fred.
Merci d'être avec nous, directeur des affaires publiques de Miracle. Et on reviendra justement sur quand la French Tech s'inquiète. Voilà, enfin, on en parle beaucoup. On va essayer de comprendre aussi tout ça. Alors, on va démarrer avec un premier sujet. Alors, ce matin, on a appris que l'autorité... Enfin, non, c'était vendredi. On apprenait que l'autorité de la concurrence s'inquiétait un peu de tout ce paysage qui donne encore la part belle aux Américains. Là, on a quelques Français, des Mistral, des Greenface qui se glissent derrière tout ça. On a des entreprises aussi utilisatrices qui se glissent derrière tout ça. Mais voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu trop de... Est-ce que la concurrence peut se mettre en place je ne sais pas, Hugo, tiens, je vais démarrer avec toi.
Merci de me lancer la balle comme ça, Fred. Non, mais effectivement, c'est un vrai sujet aujourd'hui, celui de la concurrence dans l'IA générative. Et ce qu'a fait l'autorité de la concurrence, en fait, c'est simplement de lancer il y a quelques mois une étude en demandant aux entreprises, aux utilisateurs de l'IA générative de donner un peu leur feedback sur ce qui se passait pour elles. Et aujourd'hui, on assiste aux conclusions.
Une cinquantaine d'auditions, hein, c'est ça.
Et voilà, il y a une cinquantaine d'auditions. Il y a, je crois, plus de 200 entreprises qui ont rendu leurs observations à l'autorité de la concurrence. Et l'autorité de la concurrence publie aujourd'hui son avis. Moi, je trouve que c'est quelque chose déjà d'assez positif que l'autorité de concurrence française se penche sur ces sujets-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a un sujet, et tu sais, mon penchant pour ça, Fred, le côté régulation versus le côté innovation. Oui. J'ai peur qu'à un moment donné, on prive aussi des entreprises françaises, des acteurs français qui émergent comme Mistral, d'entrer sur ce marché-là par une barrière à l'entrée, celle de la régulation qui pourrait être un peu trop importante.
On rappelle, hein, il y a eu, alors, par exemple, c'est l'accès au GPU, les restrictions au marché, la fixation des prix, les conditions contractuelles. On estime peut-être que, est-ce que Microsoft, qui investit 13 milliards dans OpenAI, est-ce que c'est pas un rachat déguisé? De la même façon, Google, Amazon, qui mettent de l'argent dans Anthropic avec son modèle Cloud. Là, on se pose des questions. Alain, quel est ton regard?
Non, mais c'est un vrai sujet, hein. Effectivement, c'est une bonne chose que l'autorité de la concurrence s'intéresse. J'ai envie de dire, il est temps, parce que tout ça n'est pas très nouveau. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'un des vrais sujets autour de l'IA générative, on l'a déjà vécu finalement à l'époque de l'émergence des plateformes, on l'a vécu avec l'arrivée d'Internet. Enfin, voilà, on voit bien que pour arriver à faire fonctionner une IA générative, il y a en fait toute une pile de technologies qu'il faut être en capacité de maîtriser. Et là, j'ai envie de dire, le réveil français ou européen est un peu tardif sur le sujet. Donc, on voit bien que il y a des enjeux de maîtrise du hardware, d'être en capacité de contrôler ça. On voit bien qu'il y a clairement des goulots d'étranglement, hein, ne serait-ce que toute la partie interface CUDA de NVIDIA, qui est aujourd'hui une des briques incontournables en fait, de l'IA générative.
Ils ont tout fait pour que ce soit incontournable.
Tout est fait pour que ça soit incontournable aujourd'hui. Donc voilà, on a cette prise de conscience là. Maintenant, la vraie question, c'est comment on gère justement justement de permettre l'éclosion d'un certain nombre de nouveaux acteurs français, européens, sur l'ensemble de cette pile technologique qui est assez vaste au final.
En plus, il y a de l'actualité. Donc ça, c'est, je disais, c'est vendredi, on a appris que l'autorité de la concurrence se penchait un peu sur ces IA. Et puis aujourd'hui, on apprend que Nvidia est dans le collimateur, il y a une des perquisitions. On est en train de regarder comment Nvidia verrouille un peu trop le marché, ne donne accès aux GPU qu'à ceux qui payent. Enfin voilà, il y a toute une enquête qui est menée. Il n'y a encore aucune accusation. Mais voilà, puis il y a aussi autour de la guerre des talents. Enfin, il y a beaucoup de sujets.
Il y a aussi la question des crédits cloud. Donc, quand on, d'ailleurs, ce qui est arrivé avec beaucoup d'entreprises auparavant, le fait que pour monter sa société, on va proposer du crédit. Donc, autrement dit, on vous donne de l'espace cloud. Amazon et Microsoft sont très bons dans le sujet, mais en faisant ça, ils verrouillent, bien entendu, les entreprises. Donc aujourd'hui, moi, je suis pour le fait qu'il ne faut pas trop de régulation, mais je pense que c'est quand même pas mal d'aller regarder par là-bas. Sur des sujets comme Nvidia, là, je pense que c'est plus un problème technique. Autrement dit, qui aujourd'hui est capable d'être face à Nvidia, face à leur technologie, ça se discute. En revanche, sur les acteurs de cloud, l'IA, c'est un moyen supplémentaire de verrouiller les acteurs. Comme ce sont des technologies qui sont énormément dévoreuses de ressources, le fait de leur dire, on vous donne open bar sur une partie du cloud, ça aide des startups, logiquement, mais ça verrouille complètement. Donc, c'est plutôt pas mal d'aller regarder par là, je trouve.
Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors certes, ils invoquent, ils disent, voilà, on va essayer d'aller chercher dans les lignes, les sous-lignes, les sous-articles du DMA, voilà, pour essayer de contrer tout ça. Je sais pas, Alain, tu as regardé un petit peu, qu'est-ce que pourrait faire l'autorité de la concurrence? Parce qu'on va pas dire à Nvidia, cassez vos prix et proposez à tout le monde.
C'est pas juste le sujet de l'autorité de la concurrence. Je pense que c'est la fameuse problématique d'émergence d'un écosystème. On voit qu'il y a eu quand même pas mal d'actions très concrètes réalisées ces dernières années avec, je crois, et Hugo peut en témoigner, des actions très positives sur l'écosystème du digital globalement et plus spécifiquement de l'IA. L'émergence de Mistral est un bon curseur, dont on parle d'ailleurs dans la Silicon Valley. J'y étais il y a 3 semaines. À Stanford, on me dit « Ah, mais alors, qu'est-ce que tu penses de Mistral ?» C'est une vraie démarche, open source, on s'y intéresse de près, etc. Donc, je pense qu'on a des vrais atouts à faire valoir. Mais voilà, c'est cet arbitrage régulation-innovation et puis surtout création d'un contexte de confiance suffisant pour permettre à un certain nombre d'acteurs d'investir, parce qu'une fois encore, l'évoquais, Microsoft et OpenAI, c'est 13 milliards de dollars. Amazon d'Anthropic, de mémoire, c'est 3 ou 4 milliards de dollars. Bon, voilà, on voit que c'est des sommes qui sont colossales. Aujourd'hui, en France et en Europe, on n'est pas du tout sur les mêmes schémas d'investissement. Nous, c'est quand même beaucoup porté par l'écosystème public, avec BPI France qui fait un travail formidable.
Et on reviendra sur justement ce que peut changer ces élections législatives, parce que là aussi, il y aura peut-être des décisions qui seront compliquées.
Et du coup, c'est vrai que voilà, faire émerger un écosystème, ça n'est pas facile. Il y a de la maîtrise technologique, mais ça, bon, voilà, je pense qu'on est en capacité de rattraper un certain nombre de choses. Mais il y a cette prise de conscience au niveau des décideurs publics, effectivement, de permettre l'éclosion de cet écosystème qui permettra, du coup, à la France et à l'Europe de davantage rayonner sur le sujet de l'IA générative.
Je pense qu'il faut beaucoup de granularité dans l'analyse de l'autorité de la concurrence. Oui. C'est ça qui va être extrêmement important. Oui. On a beaucoup crié au loup quand Microsoft a noué ce partenariat avec Mistral. Tout le monde disait, oh là là, c'est incroyable.
Ils sont vendus.
Voilà, ils sont vendus au diable. La réalité, c'est que nos entreprises françaises, elles ont aussi besoin de s'appuyer de temps en temps sur des partenariats de distribution à l'échelle mondiale avec des acteurs mondiaux que peuvent être des hyperscalers. Donc, il y a aussi ce sujet-là à un moment donné de permettre aussi l'éclosion de nos entreprises européennes au travers de la puissance de frappe d'acteurs non européens aussi.
C'est ce que l'on voit dans le quantique. On voit ils s'appuient, je sais plus lequel d'entre eux s'appuie sur IBM justement pour aller sur Kindred ou sur IBM, je sais plus, pour aller en tout cas à l'international. On est obligé de passer par là.
Et comme tu le disais, la chaîne de valeur aujourd'hui, elle est extrêmement fragmentée entre la Chine qui maîtrise très profondément l'extraction et la mise sur le marché de métaux rares qui vont servir à la fabrication des puces, ASML, entreprise française qui maîtrise le design et la fabrication des parties
néerlandaise.
De ces puces.
Européenne, on va dire.
Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit française?
Oui.
Non, néerlandaise.
Dirigée par un Français, voilà.
Dirigée par un Français. Nvidia qui fabrique les puces elles-mêmes, les hyperscalers et ensuite les LLM, donc les modèles de langage qui vont être utilisés par des entreprises comme Miracle pour déployer sur des use cases. Enfin, la chaîne de valeur, elle est très, 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 très verticalisée en fait. Et aujourd'hui, peu d'entreprises, voire pas d'entreprises, la maîtrisent de bout en bout dans sa verticalité.
Alors, ils disent aussi, hein, je regardais un peu en détail cette annonce là l'autorité de la concurrence, ils voudraient aussi que les startups aient accès plus facilement à des supercalculateurs. Alors, on sait qu'on a le supercalculateur Jean Zay, là, notamment à Orsay, et qu'il est accessible, hein, elles peuvent y aller, mais voilà, qu'il y ait davantage d'initiatives comme ça, hein, Damien.
Oui, davantage d'initiatives, de fluidité pour permettre d'accéder à des machines, on va dire, qui aujourd'hui... Ben, on retrouve la même mécanique de dire, mais quelles sont les ressources que peuvent avoir les startups pour pouvoir se développer?
On rappelle, peut-être, rappelle-nous, pour l'IA, il y a une partie entraînement et une partie indexation, RAG et tout ça. Hein,
oui, c'est ça. Bon, oui, il y a différents modèles, mais en gros, il y a toujours du cloud derrière, soit du cloud qui va permettre de faire du développement, on va dire, sur la base de données privées, mm-hmm. qu'on appelle le RAG, mais avec un modèle aussi qui est très souvent du LLM, donc le modèle en fait de langage, on va dire, le cerveau, pour simplifier très très ouais. rapidement, qui permet de faire fonctionner un peu tout ça. Donc après, soit c'est de la donnée qui vient de l'extérieur, soit de l'intérieur, soit éventuellement un mélange des deux. Il y a besoin de puissance dans tous les cas de figure. Donc cette puissance-là, tu parlais de supercalculateur, ouais. c'est quelque chose qui peut être extraordinaire pour pouvoir, en fonction justement aussi du domaine de l'entreprise. Si on est une start-up qui travaille dans le domaine médical, par exemple, on a besoin de puissance pour pouvoir faire ces calculs-là.
Autre sujet, ben tiens, qui intéresse évidemment Alain en tant que DGA de Neoma Business School, c'est la guerre des talents aussi. Et là, l'autorité de la concurrence se dit attention à pas trop verrouiller les contrats, parce que fort heureusement, Mistral sont des anciens de Google, de Google DeepMind, de Meta. On a H aussi, cette nouvelle start-up, pareil, ce sont des anciens. Enfin, ils sont tous passés. D'ailleurs, c'est assez démonstratif aujourd'hui quand on regarde toutes ces grandes, ces belles pépites. Ils ont tous à peu près le même profil. Ils sortent de grandes écoles. Ils ont fait une dizaine d'années pas forcément à Silicon Valley, mais en tout cas chez des grands acteurs américains. Et puis, ils viennent créer leurs entreprises. Et là aussi, il ne faut pas trop les verrouiller dans leur entreprise.
Quoi. Et ils sont souvent français.
Oui, en plus, oui.
Alors.
Non, mais la guerre des talents, c'est dans le numérique un énorme sujet. Sur l'IA spécifiquement, les contrats de toute façon sont extrêmement verrouillés. Tout le monde se connaît hein, aussi dans cet environnement-là. Et c'est vrai que finalement, on est sur d'un point de vue technologique, on est quand même sur un monde et un univers qui évolue à une vitesse quand même juste hallucinante au regard des nouveautés qui sont sorties. Mais tout ça, c'est fortement accéléré aussi, hein. C'est-à-dire que le web permet ça, notamment à travers aujourd'hui, si on veut suivre l'actualité scientifique des LLM et l'IA générative, il faut aller en fait sur Arxiv pour avoir ça au quotidien. Et c'est des dizaines de papiers par jour en fait oui. qui sortent avec des collectifs, d'équipes et finalement un peu toujours les mêmes labos de recherche en arrière-plan. Donc voilà, c'est un écosystème qui aujourd'hui est extrêmement foisonnant, mais finalement avec comme tu le dis, des points de passage un peu obligés par les grands acteurs de l'IA qui finalement permettent probablement d'accélérer dans sa compréhension du machine learning.
De drainer tous ces...
Exactement.
Tous ces talents.
Sur la question des talents, si c'est assez amusant de savoir ouais. qu'il y a quelques années de cela, dans la Silicon Valley, il y avait une règle qui était non écrite, mais qui était on ne débauche pas les talents des autres. Ouais. Quand Adobe a commencé à venir faire son marché chez Apple, Steve Jobs a envoyé un mail très vert aux gens.
Ah oui, c'est vrai,
vous allez arrêter ça. Ouais. Tu te rappelles de ça ? Vous arrêtez immédiatement. Depuis, cette règle s'est largement assouplie.
Ouais, ouais. Ils font des allers-retours. Hein.
Voilà, et puis maintenant, effectivement, il y a un vrai marché aux talents, puisqu'on est sur des talents rares. C'est vrai, très souvent en français, bon, mais ça fait plaisir. Mais au-delà de ça, effectivement, des talents assez rares, et comme tu le disais, qui ont été formés très souvent dans des grands acteurs, qui sont certainement les seuls à pouvoir assumer les coûts de développement de ce type de technologie.
En plus, on va en reparler avec certains d'entre eux. C'est des talents rares, et c'est un peu. Alors, il y a beaucoup de développeurs en IA, mais ceux qui ont vraiment le cerveau, enfin ceux qui ont vraiment les penseurs derrière tout ça, ils sont pas aussi nombreux que ça. Hein. On a peut-être une petite centaine à travers le monde et par chance, on en a beaucoup, beaucoup français.
Donc, et c'est des salaires du coup qui grimpent en flèche. Oui. Ah, c'est plus de $800,000 quand on est top ingénieur en machine learning chez un des grands de l'IA.
Hein. Oui, c'est pas que le salaire, c'est aussi le challenge technique qui est proposé justement à ces développeurs en IA ou à ces AI scientists comme on les appelle. Aujourd'hui, ils cherchent aussi un défi technologique, ils cherchent aussi un défi de développement avec un jeu de données qui est conséquent, avec une puissance de calcul qui est conséquente. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, les entreprises qui sont capables de leur offrir, c'est souvent des entreprises anglo-saxonnes.
Oui, exactement. Et puis, c'est vrai que quand on voit la façon dont nous, entre guillemets, on s'amuse à faire nos prompts et à travailler avec, on imagine quand on est développeur et qu'on est passionné par ça, on doit prendre aussi beaucoup de plaisir et de passion à développer tout ça. Autre sujet, alors on reste en Europe, on reste avec une big tech. C'est c'est l'Union européenne qui estime que Meta viole les règles sur les données personnelles. Alors, vous savez, depuis l'entrée en vigueur, il y avait le RGPD, il y a eu l'entrée en vigueur du Digital Market Act, c'était il y a tout juste un an. Enfin, il y a novembre 2002, l'entrée en vigueur et l'application il y a un an. Et on se dit, bon, voilà, l'Union européenne s'est dit, on va donner un an un peu à tout le monde pour s'organiser. Et puis là, ça y est, ça commence à tomber. On avait Apple la semaine dernière autour de l'App Store, l'interdiction, enfin, plusieurs impositions, interdictions aux développeurs. Là, c'est Meta qui se fait, alors, plus que taper sur les doigts, enfin, taper sur les doigts pour l'instant, on verra plus tard parce que ça peut leur coûter cher. En gros, on dit, voilà, nous, on laisse la liberté aux utilisateurs d'être traqués ou pas par la pub. Mais tiens, si vous voulez pas être traqué, vous payez. Donc, et l'abonnement, c'est 10€ ou 13€ selon que ce soit sur le mobile ou sur le web. Ça permet à Meta de récupérer la pub qu'ils ne feront pas. Mais là, l'Union européenne indique que non, c'est pas bien. C'est-à-dire, l'utilisateur, s'il décide de ne pas être traqué, ça doit être gratuit. Alain.
Oui, c'est l'histoire du payer ou consentir. Hein, voilà. Ce qui, pour l'Union européenne, est un non-choix, quelque part. Or, justement, un des rôles du DMA, c'est d'essayer de redonner un peu de choix et d'équilibre, finalement, dans cet environnement largement monopolistique, hein, presque sur certaines plateformes. Donc c'est normal que l'Union européenne joue ce rôle-là. L'amende, je crois, est de l'ordre de 13 milliards d'euros.
L'amende, ça peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Donc on fait le calcul pour Meta, ça peut faire 12 milliards.
Oui, on est sur du 12-13 milliards. Donc c'est vrai que c'est colossal. Bon, du coup, Meta a une position assez
ils ont un an,
courtoise, on va dire.
25 pour essayer de voir.
Ils ont du temps, ils ont dit on est ravis d'ouvrir la discussion, ils vont continuer à avancer. Bon, en attendant, ça fait déjà quand même plusieurs mois que ce système-là est en place et ça permet évidemment d'installer aussi un certain nombre d'habitudes. Et là, c'est la mécanique assez classique des plateformes, de pouvoir finalement, par un peu la technique du pied dans la porte, on évoquait tout à l'heure, donner finalement aux startups accès à des infras de cloud. Bon, là, c'est un peu la même stratégie, on donne accès à des plateformes sociales, au départ gratuitement, on monnaie évidemment la data via la pub et puis comme on a un cadre réglementaire, on dit ok, si tu veux plus être traqué, on te propose finalement de payer ton abonnement. Bon, voilà, c'est pas vraiment d'une grande liberté parce que évidemment le DMA dit non, mais si on est ni sur l'un ni sur l'autre, il faut quand même pouvoir accéder au service sans un trop grand retrait de qualité. Et c'est là où en fait se place le sujet dans les échanges entre l'Union européenne et Meta.
Ils disent l'Union européenne dit on n'est pas contre les abonnements, mais si quelqu'un s'abonne, c'est pour avoir d'autres services, Damien.
Oui, alors d'autres services, après, c'est le problème un peu du on-off. Quand on est une société qui a construit son succès sur l'exploitation des données personnelles pour faire son business, c'est un peu compliqué le jour au lendemain, de manière gratuite. C'est comme si c'est la stratégie du dealer. Hein. C'est comme ça, on disait, tu avais ta dose gratos, maintenant, il faut payer. Effectivement, c'est un peu compliqué. Moi, la question que je me pose derrière en creux, c'est que c'est peut-être quelque chose qui peut être hyper intéressant pour des acteurs nouveaux qui arrivent sur le marché, mais quand on est un acteur comme Meta dont le business model est celui-ci, et donc les utilisateurs sont, on va dire, habitués à ne pas payer. Moi, quand j'ai eu le choix, je fais non, je continue à être gratuit parce que je vois pas la valeur intrinsèque de mettre un abonnement sur Instagram. Y a aussi cette question-là qui est un peu un angle mort quelque part pour des acteurs comme ceux-là. Mais bon, ils ont les moyens de payer, comme tu l'as souligné. Dans tous les cas de figure, la question elle est quelle est la voie médiane. Alors la voie médiane, c'est soit trouver un moyen du style vous payez un peu et on dégrade un peu le service et on trouve quelque chose qui est médian et tout le monde est content, ou effectivement, comme tu le disais, proposer des offres en plus, des serveurs en plus. C'est ce que fait d'ailleurs Twitter quelque part, X avec Premium, qui quelque part est assez malin en rentrant cette logique de Premium maintenant qu'il y a trois niveaux. On peut quand même utiliser le service gratuitement, et puis sinon on peut jusqu'au niveau maximum, les données ne sont pas utilisées on n'a pas de publicité, ça veut pas dire que les données ne sont pas utilisées, et il y a des dégradations intermédiaires. C'est pas idiot de la part de Musk, parce qu'il apporte aussi dans la balance des fonctionnalités supplémentaires.
Hugo.
Alors moi, il y a trois réflexions qui me viennent. La première, c'est que ça confirme l'adage qu'on a souvent entendu, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le client. Ça, c'est la première des choses, et je pense que ça met un peu le focus là-dessus, où les gens sont réellement le client de... Enfin, c'est toi le produit, pardon.
Le produit, plutôt.
Oui, le produit. C'est toi le produit du service. Deuxièmement, ça met en avant aussi l'innovation que peuvent apporter dans les processus bruxellois, réglementaires et autres, des firmes des big tech. On l'a vu avec avec Apple et la Core Tech Fee qui était proposée sur l'Apple Store, de faire payer les développeurs d'applications pour continuer à utiliser l'Apple Store. On le voit aujourd'hui avec Meta qui propose cet abonnement. Moi, je trouve qu'ils sont quand même d'une créativité qui est formidable.
Les cabinets juridiques sont une créativité extraordinaire. Oui.
Et tout ça, finalement, retarde la mise en œuvre du DSA, du DMA, de l'AI Act, parce qu'on vient proposer de nouvelles choses.
Ah bah là, on est
la commission,
pour 2025 pour.
La commission doit réétudier est-ce que ça rentre dans le cadre, est-ce que ça rentre pas dans le cadre. Donc, effectivement, ça retarde finalement l'application d'une réglementation par le biais de d'innovation qui n'apporte pas du tout de valeur ajoutée au consommateur final. Et le troisième point, je trouve que c'est aussi finalement dommageable pour le consommateur dans un certain sens. Tout le monde peut pas se payer un abonnement à 10€ sur Meta, sur Spotify, sur telle ou telle plateforme, et au final les consommateurs vont devoir faire des choix entre ce qu'il a, et en particulier les consommateurs qui ont les revenus les plus modérés. Et finalement, ne pas avoir de pub, ça revient finalement à favoriser les gens qui ont le plus de ressources, et ça, moi, je trouve ça pas totalement équitable dans le traitement qu'offre les grandes plateformes aux citoyens européens.
C'est souvent ce que l'on dit, hein. On protège le consommateur, mais du coup on embête l'utilisateur. Et moi, le truc le plus, enfin, je trouve que la fonction qui comme vous, comme moi, comme ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est tout bêtement le Google, hein, où on cherche une adresse et maintenant faut ouvrir l'application Google Maps. Alors, et surtout qu'on ouvre Google Maps, hein, on va pas chercher une nouvelle adresse. Donc c'est un peu enquiquinant cette histoire. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu aussi de choses? Alors la première, c'est que l'Europe veut un peu montrer l'écrou en disant, et derrière on a l'IA qui arrive, on a le Data Act, c'est pour montrer que là maintenant, il va falloir vraiment jouer notre partition, au risque de se retrouver comment qualifier de trop contraignant pour l'innovation. Et puis, n'oublions pas, on sort des élections, alors pas législatives, là, mais des élections européennes, avec des nominations à des postes clés en Europe, et c'est peut-être pas mal de montrer que on a un peu de cran, on est commissaire à la concurrence, on n'hésite pas à taper sur les big tech, à montrer tout ça. Non, il n'y a pas un jeu autour de ça, Alain ?
Non, mais il y a probablement un jeu, il y a quand même un vrai sujet, c'est quoi l'alternative ? Ouais. Moi, je veux bien, les réponses qu'on va avoir, et Apple a commencé à esquisser ça avec Apple Intelligence, c'est de dire, on n'est pas compliant, c'est pas grave, on ne va pas en Europe. Et on va avoir ce rapport de force qui va se jouer forcément. Donc, jusqu'où on va être prêt à aller de priver finalement un certain nombre d'utilisateurs européens de ce type de technologie, on pourrait aller assez loin dans ce jeu-là si on avait une alternative. Pour le moment, il faut la construire.
Sachant que le jeu avec Apple est assez malin, parce qu'en fait, Apple a quand même dit qu'il ne venait pas pour l'instant aux États-Unis, en Europe, puisque le produit était disponible uniquement aux États-Unis. Donc c'est un peu de la négo, très clair. Hein. C'est, si on continue comme ça, peut-être qu'on ne viendra pas. Donc oui, c'est le moyen d'embêter l'utilisateur. Et donc on voit bien, c'est ce qui c'est les lignes de force de négociation qui vont se passer. Qui peuvent effectivement être un peu gênantes, mais qui peuvent aussi ouvrir un champ de concurrence.
Tout à fait. Mais c'est le démarrage de la négociation.
Hugo ?
Et les entreprises européennes ne sont absolument pas armées pour se battre à armes égales sur ces jeux de compétition avec Bruxelles. Enfin, vous, très bêtement, vous regardez sur LinkedIn le nombre de personnes qui travaillent chez Amazon à Bruxelles, il y a plus de 250 personnes. Le marché intérieur e-commerce belge ne nécessite pas 250 personnes chez Amazon pour travailler chez eux. Donc toutes ces personnes-là sont des lobbyistes qui travaillent à influer la position des institutions européennes en faveur d'Amazon. Et en fait, ça c'est vrai pour tous les GAFAM. Enfin, c'est de notoriété publique, il y a un registre de transparence.
Il y a un budget énorme.
C'est un cinquième des dépenses de lobbying à Bruxelles, c'est les GAFAM.
Voilà. Et est-ce que ça, je reviens sur ma question aussi, est-ce que l'Europe, c'est un peu pour montrer les crocs, si montrer on existe, il y a un peu de ça.
Ah bien ça, oui, bien sûr.
Hugo, je te vois un petit peu circonspect.
Ouais, je pense qu'ils ont aussi beaucoup de choses à faire aux US avec la Federal Trade Commission. Ouais. Donc non, je pense que ça leur pose un vrai souci quand même, parce que c'est pas juste pour montrer les dents. Enfin, ils ont d'autres choses à faire que juste de montrer les dents, je pense. Ouais.
Damien.
L'Europe a été un marché complètement ouvert pendant des années. Je veux dire, c'était open bar pendant des années pour ce que sont devenus les GAFAM. Et l'Europe se réveille tardivement, mais elle a donc besoin d'avoir une réaction qui est à la hauteur du retard. Donc il faut montrer les dents. Et comme la clé que peut jouer l'Europe, c'est un marché suffisamment dense en termes de consommateurs et de valeurs, c'est la clé qu'il faut jouer. Donc c'est maintenant ou jamais, effectivement. Alors si jamais un jour un acteur dit vraiment sérieusement, on vient plus, c'est fini. on va voir ce qui va se passer, mais pour l'instant on est vraiment sur ce fil du rasoir qui est que non, on va pas se retirer. Donc c'est de la négo et c'est très bien fait. Enfin, je trouve que c'est bien vu de la part de l'Europe. Dans tous les cas de figure, c'est une partition qui est logique. Mm-hmm. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut rester que sur le côté coercitif, et il faut peut-être ouvrir aussi sur un autre côté qui serait le développement d'un marché européen, la commande publique, etc. C'est un autre sujet, mais pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait non plus forcément l'autre partie.
Oui, sur ce sujet, je suis assez d'accord avec Alain. C'est quoi l'alternative, quoi? Que l'alternative, on veut bloquer les réseaux sociaux, mais c'est quoi l'alternative aux réseaux sociaux? On veut bloquer le cloud, c'est quoi l'alternative? Alors là, il y a un peu de cloud européen, français, mais...
C'est presque ce qu'on a le plus, le cloud.
Oui, c'est vrai. Les data centers, on en a. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué, là, Alain.
Non, mais on paye le prix, en fait, je pense, d'un manque de culture numérique depuis 3-4 décennies, en fait, en vrai, hein, depuis l'émergence de l'informatique et plus récemment d'Internet. Moi, je crois qu'il y a eu une absence de vision de ce que ça signifiait se positionner sur ces sujets-là. On a eu quelques tentatives, mais pour le coup, effectivement, le marché étant open bar pour les acteurs américains, ils se sont engouffrés avec ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire du gratuit, un service hyper qualitatif malgré tout, faut quand même le rappeler.
Oui, il faut.
Voilà.
Rappeler qu'on les utilise tous les jours, on en est très, très content quand même.
Ça tombe quasiment jamais en panne.
Et ça tombe quasiment jamais en panne. Merci à tous les trois.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, avant de retrouver nos débriefeurs, bonsoir Étienne Brack.
Bonsoir Frédéric.
Alors Étienne, hier, ça n'a échappé à personne, premier tour des élections législatives. Et la question que l'on se pose ce soir, c'est comment ont réagi les marchés aujourd'hui?
Eh bien écoutez, vous avez une réaction plutôt positive du CAC 40. Il a gagné plus de 2% en séance, avant finalement de gagner plus d'1% à la clôture, légèrement sous les 7600 points à 7561 points, avec d'une certaine façon le marché qui préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Souvenez-vous, la semaine dernière, vous aviez des sondages qui mettaient le Rassemblement National à 37-38%. Finalement, les résultats officiels du ministère de l'Intérieur donnent 33% hier soir au premier tour, quasiment 28% pour le nouveau Front Populaire. Et la crainte depuis plusieurs semaines, c'était que l'un ou l'autre arrive à Matignon. Finalement, la thèse principale aujourd'hui, c'est qu'aucune majorité absolue ne sera obtenue dimanche soir. Donc suite à cela, vous avez un marché qui est un petit peu soulagé. À noter que sur le front de l'obligataire, vous savez, la dette, la référence, le marché à 10 ans, eh bien vous avez une semaine qui sera très importante puisque la France va émettre entre 8 et 10 milliards jeudi. Donc ça sera un moment vraiment test. En attendant, les valeurs bancaires rebondissent ce soir avec des gains de 2 à même quasiment 4% pour Société Générale. Attention néanmoins, la situation reste très fragile. Quand vous regardez les différents économistes, leurs notes depuis ce matin invitent à la prudence. À l'exemple de Arnaud Marès, le chef économiste Europe de Citi, qui dans sa note, je cite, « Dans tous les cas, la France restera probablement politiquement instable après les élections, avec une visibilité politique très limitée, une perte d'influence substantielle en Europe à un moment critique pour le continent. Et ce point de vue, il est partagé par aujourd'hui toutes les banques d'affaires, par toutes les grandes sociétés, puisque depuis plus de 15 jours, les sociétés aujourd'hui mettent tous leurs grands projets en pause. Et à l'approche de l'été, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont les reprendre. »
Voilà, et comme on le dit souvent ici sur ce plateau, on parle des marchés, on parle pas du sentiment, de l'ambiance dans les entreprises ou de l'économie, mais enfin, merci Étienne Brack de nous avoir apporté toutes ces précisions sur l'ambiance sur les marchés après ce premier tour des élections législatives françaises. Je rappelle, le deuxième tour aura lieu dimanche prochain, si ça vous avait échappé. Allez, on poursuit notre débrief avec Damien Douani, responsable d'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet de conseil Lab36, Hugo Weber, directeur des affaires publiques de Miracle, et Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School. Hugo, je vais démarrer avec toi pour ce sujet. Alors, on vient de parler à l'instant de l'impact, quel impact pouvait avoir sur les marchés ce premier tour des législatives. Et tu as dit, mais nous, Miracle, entreprise bien connue, licorne, c'est combien de personnes aujourd'hui?
On est un peu plus de 750.
Voilà, on est en train d'aller quand même vers la belle ETI. Et que ce soit chez Miracle ou dans les autres entreprises de la French Tech, on s'interroge quand même beaucoup sur la suite, quoi.
C'est plus qu'une interrogation.
Ouais. On s'inquiète.
Peur de ce qui va se passer. La réalité, c'est que les programmes à la fois d'extrême gauche et d'extrême droite sont des programmes qui sont mortifères pour l'écosystème technologique en France. Essentiellement pour trois raisons, et qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et pas forcément cumulables à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Mais d'abord, le sujet de l'immigration. Très clairement, tous les programmes qui visent finalement à remettre des frontières vont contraindre le recrutement des talents étrangers dans nos entreprises de la tech. Et c'est un vrai sujet. On a besoin d'un certain nombre de talents étrangers qui viennent renforcer les compétences qu'on peut avoir dans nos entreprises. Je pense aux développeurs qui peuvent être marocains, tunisiens, indiens, qui viennent dans nos entreprises de la tech française aider à développer des produits en France, des product marketers. Enfin, il y a plein de métiers finalement où on va chercher des compétences en dehors de
France. Souvent, on en a parlé tout à l'heure pour les Français, on a eu des expériences à l'étranger, donc voilà, enfin, arrivent avec leur richesse culturelle et leur richesse aussi professionnelle.
Exactement. Le deuxième sujet, c'est celui de, du contrôle des investissements étrangers. Dans certains programmes des extrêmes, vous retrouvez un strict contrôle des investissements étrangers dans les startups françaises. Aujourd'hui, et on en parlait tout à l'heure, de la difficulté des entreprises françaises à être concurrentielles à l'échelle mondiale, ça vient aussi d'un sujet de financement. Mmh. Et je ne connais pas un seul financeur qui ne se poserait pas la question d'investir dans une entreprise française, ou qui se poserait la question d'investir dans les entreprises françaises s'il y a un vrai contrôle de la part de l'État sur un investissement étranger. Le président Macron a quand même mis énormément de choses en avant. Mm-hmm. Je pense aux événements comme Choose France qui ont réellement placé la France sur la carte de la tech. Et enfin, le dernier sujet, c'est le sujet de l'hébergement des données en France. Dans certains des programmes, encore une fois des extrêmes, vous retrouvez la très forte volonté finalement de stocker les données des Français et des entreprises françaises sur du cloud français. Nous, on est une entreprise internationale chez Miracle, on sert des clients dans 40 pays, on a des bureaux dans une douzaine de pays. Je vois pas comment est-ce qu'on pourrait aller contraindre nos clients aux États-Unis ou en Australie à aller héberger ces données sur du cloud français. Mm-hmm. Bon, ça nous semble un peu compliqué.
Oui, on voit. Et ceux qui le font en général s'appellent la Chine et la Russie. Hein. Pour rappel. Donc oui, il y a quand même cette inquiétude, surtout que on voit ces idées, mais en plus faut aller gratter un peu pour aller chercher toutes ces lignes de programme autour de la tech. Alain, toi, oui, il y a une inquiétude forcément. On reste vraiment contenu sur cet univers de la tech et de l'économie.
Non, mais je crois que Hugo a effectivement bien énoncé l'ensemble des inquiétudes. C'est une inquiétude qui est partagée aussi dans le secteur de l'enseignement supérieur. L'ensemble aujourd'hui du secteur a d'ailleurs publié un communiqué de presse pour faire part de ses inquiétudes autour notamment des problématiques de pouvoir attirer des étudiants internationaux, attirer des professeurs internationaux. Ça fait partie effectivement aujourd'hui pleinement de notre activité, la richesse finalement qu'on propose à l'ensemble de nos étudiants. Et c'est vrai que nous, notre métier quelque part, c'est de former à l'esprit critique. On est un peu les garants quelque part de l'esprit des Lumières, la philosophie des Lumières. Bon, voilà, moi c'est une mission à laquelle je crois pleinement, et oui, des inquiétudes aujourd'hui sont légitimement exprimé.
Surtout, je pense que c'est dans les deux sens. C'est attirer des talents, mais c'est aussi empêcher nos talents. On parlait de nos talents français de Mistral. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui ces entreprises, si ça se passe mal, de se dire on va s'installer pas très loin en Angleterre, en Belgique ou dans le sud ou en Allemagne, pourquoi pas, et puis même aller carrément plus loin et repartir aux États-Unis. Il y a ça aussi.
C'est un constat, Hugo le disait. Aujourd'hui, la France était clairement dans une position de challenger notamment l'Angleterre. Au regard des investissements, avec des mouvements très nets de la place de Londres vers la place de Paris. Bon, aujourd'hui, je crois que l'ensemble du secteur est en plein attentisme pour savoir un petit peu ce qui va se passer dans notre pays.
Hugo. Et si je peux peut-être rebondir sur la citation qui était projetée un peu plus tôt de l'analyse de Citi qui parlait de la place de la France et de son influence dans le monde économique, ça joue aussi sur l'influence dans le monde tech. Et aujourd'hui, on sait qu'on est un peu à un moment charnière d'un changement de civilisation avec l'IA générative. Si on n'est pas capable d'attirer des capitaux, d'attirer des talents, d'attirer des nouvelles technologies dans notre pays, ça va aussi être vraiment plus compliqué.
Et surtout que je pense que tu parlais de Choose France tout à l'heure, je trouve que le Choose France de cette année, moi ce qui m'a marqué, c'est qu'à la limite on parle plus de French Tech, on parle de la tech en France, ça fait partie, et on voit beaucoup d'étrangers qui ont été, d'ailleurs certains qui sont venus à Vivatech aussi quelques jours plus tard, ont été surpris par cette vivacité dynamique, ceux qui ne connaissaient pas bien, qui ne s'y intéressaient pas, et de montrer, oui, c'est pas juste quelques start-up qui vont devenir des licornes, et puis quelques grandes sociétés de luxe, et puis un grand pétrolier, et puis voilà, c'est ça la France. Dans la France aujourd'hui, c'est un secteur tech qui tient. Il y a des Miracle, il y a des Mistral, il y a des entreprises beaucoup plus importantes et même les LVMH et les Safran, tout ça, les Thales développent énormément de technologies. Damien,
la question qu'on peut se poser, quelle que soit l'issue du vote, c'est aussi la question de la zone de turbulence qu'il va y avoir. Et l'économie n'aime pas les turbulences, mmh. n'aime pas le doute, n'aime pas le manque de confiance. Donc très clairement, je sais pas, on va dire, j'ai pas de boule de cristal pour voir ce que ça peut donner, mais l'histoire a montré des fois qu'à chaque fois qu'il y a des zones de turbulence dans des marchés comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, il va y avoir des fuites de talents ou même des capitaux qui vont dire bah nous on vient pas, on n'a pas envie d'être associé à ça.
Donc développement, moins de recrutement, enfin voilà.
Voilà, donc il va implicitement y avoir une mécanique qui va se créer de certainement d'appauvrissement de l'écosystème. C'est réellement un vrai risque.
Oui, donc attention, voilà, c'est on voulait un peu, c'est Hugo qui nous dit, on en parle beaucoup chez nous et avec d'autres entreprises, mais c'est vrai qu'on le voit dans le monde de l'enseignement, dans le monde du conseil, dans les médias, enfin tout le monde s'inquiète de cette tech qui est en train de, ça y est, de surgir. Il ne faut pas voir non plus, alors on aime bien nous parler des licornes, mais ce n'est pas juste ce phénomène des licornes, c'est vraiment, on fait de la transformation chez Schneider Electric, on fait de la transformation à la SNCF, enfin voilà, le numérique est en train d'embarquer tout le monde, et pas seulement quelques entreprises où les dirigeants veulent à tout prix devenir millionnaires.
Je pense que tu as raison d'insister là-dessus, Fred, parce que c'est vraiment l'un des sujets, c'est pas la tech pour la tech, l'écosystème parisien ou parisien. Aujourd'hui, ceux qui bénéficient de tous les emplois directs et indirects qui sont créés par l'écosystème tech, c'est partout en France. Tu parlais de Choose France, Microsoft a annoncé la création d'un data center en Alsace, il se trouve que je viens d'Alsace. Oui. Quand on regarde, finalement, c'est une région qui a aussi été par moments
sinistrée,
mais un peu délaissée aussi par ces investissements étrangers. C'est vrai que l'axe rhénan, c'était beaucoup de la pharma, et de voir des entreprises de la tech s'implanter en Alsace, créer de l'emploi en Alsace, c'est aussi de l'emploi local, durable, pour
une dizaine d'années. Oui, puis l'image en plus, dire tiens, pourquoi pas, ça attire d'autres à venir dans le coin. Voilà, écoutez, on verra la suite en tout cas, mais cette inquiétude est vraiment forte, et on voulait apporter ces quelques témoignages ce soir. Autre sujet, partenariat imminent entre Apple et Google Gemini, alors on s'en doute un peu, on voit que toutes les entreprises ouvrent, ne s'embarquent jamais vraiment avec un seul LLM, avec un seul modèle, on veut de l'open source, on veut de l'open AI, on veut même certains avec du GPU Nvidia, puis parfois non. Apple, il est comme les autres, il s'ouvre à tout le monde, Damien.
Oui, en plus ça a été annoncé lors de la grande conférence WWDC, lorsqu'ils ont présenté Apple Intelligence, où ils ont dit, on va laisser là aujourd'hui on fait appel à ChatGPT si besoin pour les choses un peu plus perfectionnées dont aurait besoin Siri, mais on laisse la porte ouverte à d'autres acteurs. Donc c'est assez malin parce que Apple fonctionne toujours dans cette logique d'écosystème, de walled garden. On est chez nous, donc vous êtes les bienvenus, mais à nos règles. Donc on commence par ChatGPT parce que c'est le plus connu, parce que c'est peut-être celui qui a été le plus généreux, que sais-je. Dans ce cas de figure, c'était malin.
Si on met un petit pic à Microsoft, c'est pas
voilà,
plus mal.
D'ailleurs, l'annonce de Gemini, c'est très amusant, parce que dans les rumeurs qui précédaient la WWDC, c'est d'ailleurs Gemini qui est d'ailleurs annoncé comme étant l'acteur avec qui ils avaient fait un partenariat.
Ce qui étonnait un peu moins tout le monde, genre, mais de toute façon, Google et Apple, ils sont déjà très proches, puisque le moteur de recherche dans l'iOS, c'est le moteur
Donc c'est absolument pas surprenant. Ce qui est encore moins surprenant, c'est qu'Apple a dit qu'il voulait pas du moteur de Meta, parce que tu comprends, il est moins perfectionné. On sait qu'Apple et Facebook et Meta s'adorent. Donc preuve supplémentaire que Tim et Mark n'ont toujours pas enterré l'âge de guerre. Mais dans tous les cas de figure, c'est assez malin parce que finalement, il y a un péage Apple à chaque fois et les acteurs doivent se mettre dans le moule de l'expérience utilisateur. Je trouve vraiment que c'est bien pensé.
Et puis, je pense qu'il y a autre chose aussi. On peut pas être avec un seul modèle aujourd'hui. Il faut avoir une... Et puis, en termes d'investissement, on peut pas parier que sur un, on est obligé d'y aller à plusieurs, Alain.
C'est assez marrant de voir qu'Apple finalement applique les recommandations de l'autorité de la concurrence, c'est-à-dire pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Mais à son avantage.
À son avantage, il y a un rebranding qui est colossal, Apple Intelligence, AI quoi.
Fort,
Donc en fait, on va pas acheter de l'artificial intelligence, on va acheter de l'Apple Intelligence. Et du coup, après, peu importe la manière dont ça marche, s'il faut aller piocher un peu dans le modèle de Gemini, dans le modèle de ChatGPT. ChatGPT.
On fera du modèle de licence.
Ou dans celui de Claude chez Anthropique. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en parallèle, Apple mène aussi son petit bout de chemin, hein, notamment si on s'intéresse au Small Language Model, c'est-à-dire comment embarquer finalement de l'IA générative directement dans le device.
Dans le Mac ou dans
pour
le.
Pour profiter à plein finalement des puces qui sont déjà installées progressivement depuis plusieurs générations de matériel. Voilà, on voit que l'entreprise se cherche toujours. Elle a fait un grand pas en annonçant Apple Intelligence. Elle continue sa stratégie effectivement de diversification pour quelque part aller chercher le meilleur modèle pour la meilleure opération, le tout de manière très dynamique. Et le moment où elle sera prête, elle pourra aussi dire bah, finalement le Apple Intelligence modèle qu'on a fait maison est peut-être meilleur.
Il marche aussi. Hugo,
c'était très marrant le terme que tu utilisais d'ouvrir les portes de l'écosystème et en même temps ils en ferment d'autres, en tout cas ils n'ouvrent pas d'autres portes, et celle de Meta notamment. Et je pense que tu mettais aussi le point sur quelque chose qui est très très important, c'est les cas d'usage qui vont être utilisés, et à chaque cas d'usage il y a un modèle de langage qui peut être différent. Donc cette approche finalement non exclusive avec des modèles de langage, elle est assez fondamentale aujourd'hui dans toutes les industries, que ce soit des téléphones avec, avec Apple, mais aussi dans le software. Chez nous, chez Miracle, on va utiliser du OpenAI, on va utiliser du Mistral 7B, et on a une approche qui est à la fois non exclusive et qui va en fait chercher le bon modèle pour le bon cas d'usage.
Et puis c'est une façon aussi, Miracle en est un exemple, Hugo, tu le dis, d'être toujours dans la course, quoi, de pas se dire, si on développe son propre modèle, vu les milliards que mettent les autres, vite tourner en rond un peu avec son petit modèle. Là, au moins, il y a des contrats commerciaux. Alors, ça coûte de l'argent, certes, mais au moins, on est toujours dans le up-to-date, quoi.
Après, il y a une question derrière, c'est le modèle qu'ils développent. Si on fait un parallèle avec ce qu'ils font déjà de par ailleurs, le modèle d'Apple, c'est d'être dans un écosystème, d'avoir des gens extrêmement, on va dire, fiables au sens qui gardent qui restent dans l'écosystème de la marque. Et donc, ils sont un public captif. Et donc, ce public captif, qui est plutôt CSP+, très souvent, quand on veut y accéder, l'Apple fait le monnaie. L'exemple typique, c'est le moteur de recherche Google, par défaut dans Safari, qui aime 20 milliards de dollars. Pour être présent comme moteur par défaut. Donc pourquoi ne pas imaginer que demain, à l'instar, cependant on peut changer le moteur de recherche dans Safari. Donc pourquoi ne pas imaginer demain, à l'instar de cette mécanique-là, de dire il y en a un qui va payer plus cher, donc Gemini, ChatGPT, ou qui voudra pour être le moteur par défaut qui va suppléer Apple Intelligence, mais tu pourras choisir demain un autre modèle si tu as envie, peut-être avec un abonnement, on va savoir.
Justement,
je vois venir le modèle derrière, et je pense qu'il y a un deuxième effet qui se coule, qui va arriver derrière.
Justement, tiens, je te laisse le micro. Un abonnement pour utiliser Apple Intelligence. Alors c'est vrai qu'Apple Intelligence fait couler beaucoup d'encre, notamment, ils ont dit finalement en Europe tout n'est pas prêt, on le rendra pas disponible en Europe, il est disponible qu'en langue anglaise, et puis peut-être que ça les arrange aussi de rester dans un périmètre américain pour l'instant, et puis même dans un périmètre plus restreint parce qu'ils sont pas tout à fait prêts, mais quand même cette histoire d'abonnement là, comment tu analyses ça, Damien?
Bon, déjà, rien n'est jamais gratuit chez Apple. Donc, par conséquent, il y a un moment où ils vont monnayer. Là, aujourd'hui, on n'a pas, quand ils ont présenté Apple Intelligence, ils n'ont pas parlé du coût que cela pouvait avoir de faire des interactions avec ChatGPT, par exemple, quand on veut sortir de la sphère Apple Intelligence. Donc, dans l'immédiat, on se dit, on a l'impression que c'est gratuit, ou tout au moins que c'est financé pour partie, peut-être par la marque, pour habituer les utilisateurs. Mais il y a un moment où on va passer à la caisse. Donc, très clairement, il va certainement y avoir un modèle comme ils le font aujourd'hui, un Apple One, ou bien des services en plus, le iCloud Plus, par exemple, qui permet d'accéder à d'autres services additionnels, en plus d'avoir du cloud en plus. On va, par exemple.
Je veux améliorer mes photos, ce sera un service en plus, par
peut-être,
exemple.
Peut-être, ou ça peut être tout simplement, tu vois, par exemple, je prends le cas de iCloud, c'est assez malin parce que quand tu passes dans un forfait supérieur, il te dit en plus il y a une sorte de VPN maison qui est fournie d'office, vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête, ça fonctionne et puis voilà. Donc c'est toujours pareil, ça fonctionne et puis voilà, qui est assez malin, qui fait que tu passes à la caisse, tu dis parce que ça marche bien. Donc il risque d'y avoir peut-être des limitations, mais qui fonctionneront très bien en modèle gratuit, qui feront que si, je dis n'importe quoi, on désire avoir par défaut du ChatGPT qui ferait tourner par exemple sur Siri sans avoir besoin de passer par la pile Apple Intelligence, peut-être que pour certaines fonctions, il faudra passer par cet abonnement, mais ça marchera bien sans. Et c'est là où ils sont très 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 bons. Donc ce serait pas étonnant qu'on passe par un abonnement à un moment, mais là où ils sont bons, c'est qu'ils le font de manière très subtile et ça fonctionne très bien. Et t'as envie de passer à la caisse.
Là, je trouve que c'est très clair, parce qu'on était avant la WWDC, on était en train de dire mais que fait Apple Google dans l'IA. Et finalement, là, on a l'impression que, finalement, oui, ils se débrouillent. Alors, c'est peut-être pas forcément, on le disait à l'instant, leur IA en propre. Ils ont peut-être beaucoup de retard par rapport aux autres. Mais, mine de rien, ils sont vus comme ceux qui font avancer avec leur écosystème.
Mais c'est leur stratégie habituelle. Ouais. Apple est davantage un excellent intégrateur de technologies existantes plutôt qu'un réel créateur de nouvelles technologies. Et si on regarde l'Apple Vision Pro, c'est exactement ça. Apple Intelligence prend exactement le même chemin. Et là où l'histoire de l'abonnement est extrêmement malin, c'est que finalement, pour le moment, ils ont en main toutes les cartes. C'est-à-dire qu'ils pourront choisir leur stratégie en fonction de là où ils en sont réellement le moment venu d'accès auprès de leur base d'utilisateurs. Parce que de deux choses l'une. Soit effectivement, leur modèle est meilleur et on payera pour accéder au modèle Apple avec la garantie du respect des données, etc., etc. Soit finalement, leur modèle n'est pas tellement meilleur et quelque part, on payera pour aller chercher à la volée le meilleur modèle qui va accomplir telle ou telle tâche. Et eux vont dire, c'est ça Apple Intelligence, c'est pas le modèle d'IA générative utilisée. C'est la couche intermédiaire qui va à la fois emmener le contexte de l'utilisateur, les données de l'utilisateur de manière sécurisée vers le modèle le plus efficace.
Oui, mon iPhone est totalement transparente et on n'a pas besoin de choisir.
Et surtout, on ne choisit rien.
C'est ça. Mon iPhone est super. Et puis, on ne regarde pas tous les applications qui tournent.
Ouais. Exactement.
Voilà, mon application mobile, elle tourne bien, avec mon iPhone.
Quoi. Et si ça se trouve, ça sera une composante de différents modèles disponibles sur la place de marché des modèles.
Ouais. Moi, j'ai juste un tout petit pas de côté à faire. C'est celui des données, des modèles qui vont alimenter l'IA d'Apple. A priori, de ce qu'on entend, ça va quand même être des modèles qui sont assez anglo-saxons. Il faut aussi se poser la question de, dans cette non-exclusivité que propose Apple, l'intégration de modèles européens, asiatiques, qui vont permettre finalement une pluralité aussi d'une vision du monde qui n'est pas forcément que celle de la tech américaine.
On l'a vu dans un autre domaine avec Google Traduction, qui a annoncé la semaine dernière plus de 100 langages en plus. Alors des langages genre breton, occitan, pour parler de la France, mais ça va beaucoup plus loin, des langages en Afrique qui sont parlés par des dizaines de millions de personnes, mais qui n'étaient pas dans Google Traduction. Donc on voit cette ouverture à la fois côté culturel, des langues qui pourraient se perdre, mais aussi beaucoup commercial, en se disant tiens, là, et je pensais quand tu parlais de langue asiatique, le cantonais là qu'ils ont rajouté aussi. Un tout dernier sujet avant de faire une courte pause, et on se retrouvera pour la fin de ce débrief, c'est les, je sais pas si vous avez vu ça, cette IA qui va commenter les JO de Paris 2024. Donc j'ai trouvé l'idée assez originale. Enfin, c'est Léa Benaim qui avait repéré ça, et en plus la voix, c'est celle d'un commentateur célèbre des JO. Alors moi, j'avais déjà vu ça il y a quelques années sur Wimbledon, où c'était une IA qui allait prendre des images des courses annexes et qui faisait des petits résumés. Voilà, on disait tiens, je voudrais voir, je suis tel joueur, il a joué sur le cours 19. Et bien, une IA avait récupéré les meilleurs moments. Et alors, je sais plus s'il y avait des commentaires, mais en tout cas, l'IA était présente. Damien.
Oui, alors là, la particularité, c'est que c'est Al Michaels qu'on voit à l'écran, qui est le commentateur de NBC. Et là, l'idée finalement, c'est d'avoir une sorte de résumé sur mesure, au sens où il va nous appeler par notre petit prénom. Au début, on lui dit je m'appelle Damien, et on dit alors Damien, ce soir le résumé rien que pour toi, tu aimes beaucoup la natation, et bien regarde, on a un truc pour toi. Et donc c'est assez malin, il va y avoir cette côté, alors c'est ils ont bien sûr, ils ont calqué sa voix, donc ils ont pris sa voix, ils l'ont mappé pour faire en sorte que ce soit sa voix reconstituée par l'IA qui commente, et donc des petits résumés. Moi, ça me fait penser, je sais pas si
il a accepté,
c'est sur acceptation, mais sur du commentateur star de NBC. Ça m'a fait penser à deux choses. La première, c'est en Corée du Sud, il y a depuis plusieurs années une animatrice qui est un peu la présentatrice du journal du JT, on va dire, qui est là-bas star, qui a accepté d'être doublée par un avatar, l'idée étant qu'elle continue à présenter des journaux, mais quand c'est 2h du matin, qu'il y a de la breaking news. Donc autrement dit, on va pas venir la chercher forcément au saut du lit, et donc on peut continuer à traiter ça. Deuxième élément auquel ça me fait penser, je sais pas si vous connaissez cette application qui s'appelle Juice, comme du jus, qui a été montée par Raphaël Adjian, ceux qui se rappellent le Navastag, et qui est en fait pareil, le même principe, c'est ma radio sur mesure, je dis ce que j'aime et je vais avoir des voix qui vont me dire bonjour Damien, voici ton résumé d'actualité et les sujets que tu aimes, et boum, j'ai un résumé qui va piocher dans de l'actualité. Ça me fait vraiment penser à tout ça, je trouve ça assez enthousiasmant.
Alain ?
NBC parie clairement sur le streaming autour des JO et envisager, je crois, de l'ordre de 7 millions de versions personnalisées des contenus, ce qui est colossal. On voit bien là la puissance de l'IA générative, notamment, qui a été complètement compris par la chaîne de télé pour hyper personnaliser des contenus, puisque finalement ils se transforment en hub, ils vont capter des images, les retransformer à la volée, commenter, personnaliser et redistribuer tout ça
et l'utilisateur
en streaming sur leur plateforme. Et l'utilisateur sera ravi, puisqu'effectivement on s'adressera à lui de manière spécifique.
Et en plus, l'expert, lui, il sera déjà allé voir les épreuves, et celui qui s'y intéresse, il veut suivre son athlète français, sans être vraiment un fan, mais il pourra suivre tout ça, Hugo.
Moi, j'ai un avis qui est pour le coup un peu différent. Je trouve pas ça génial. Pour deux raisons. La première, les JO, c'est aussi
billets d'entrée et tu iras à toutes les épreuves.
j'aimerais bien. Je fais un appel à ceux qui ont des billets, n'hésitez pas. Mais au-delà de ça, l'esprit des JO, c'est aussi très fédérateur. Et je trouve qu'un résumé qui est personnalisé, très verticalisé, ça devient une bulle informationnelle dans laquelle on reste en fonction de ses préférences.
Il n'y a pas le côté social.
Et malheureusement, on ne voit pas tout ce qui se passe à côté. Et on peut se retrouver une passion pour le hockey sur le gazon parce qu'on a eu le petit bout de séquence sur hockey sur le gazon qui était génial. Donc je trouve que ça prive un peu aussi de l'ouverture d'esprit des JO. Et le deuxième point qui est peut-être un peu plus trivial, je suis désolé, mais moi, les JO, c'est les souvenirs des JO que je regardais, c'était ceux que je regardais avec mon papa. Nelson Montfort, l'émotion qu'il fait passer. Si l'IA de Al Michaels arrive à refaire exactement la même émotion, why not? Mais je pense qu'on en est encore loin aujourd'hui.
Hugo, pour aller dans ton sens, il y a deux choses. Un, on ne sait pas qui va écrire les textes derrière. Parce que quand tu commandes une vidéo, est-ce que tu vas décrire ce que tu vois, et donc c'est très flat, ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va aller effectivement un peu plus
la vidéo description.
Voilà, donc c'est ça la première question, c'est ce que ça va donner de ce point de vue-là, et j'ai pas la réponse. Je vais chercher, j'ai pas trouvé la réponse. Deuxième élément, t'as raison, mais ce que tu pointes du doigt, c'est le direct. Là, finalement, on est sur du condensé. Résume-moi le match ou résume-moi les trucs de la journée. Le direct restera toujours le direct, à mon sens. C'est ce côté extraordinaire qui est que on voit Marie-Jo Perret qui pour ceux qui s'en rappellent, qui trace, et le commentateur qui a plus de voix, en train de s'étouffer, en train de voir la performance sous ses yeux. Et c'est vrai qu'il faut être là sur le moment. En revanche, le résumé, comme ça pourrait te dire, le résumé du match de foot pour voir ce que ça a donné ce soir à la France, et le match et le but qu'ils ont marqué sans le marquer, ça peut être intéressant d'avoir quand même ce principe-là de quasiment instantané par une voix automatique, mais qui est assumé par le commentateur.
Eh bien, nous, on vous proposera le résumé du débrief de la tech, justement. Ça, vous l'aurez, évidemment, et pas avec de l'IA. Ce sera bien nous. Vous pouvez retrouver, bien entendu, tout ça en replay et sur Tech & Co. Mais le débrief n'est pas complètement terminé. On va marquer une courte page de pub et on se retrouve juste après. Tiens, j'aimerais bien qu'on parle de ces AirPods Apple qui va intégrer une caméra infrarouge pour 2026. Enfin, a priori, parce que c'est toujours un peu quelqu'un de bien informé qui navigue dans les réseaux, dans les réseaux autorisés. Et puis ce Meta qui fait le teasing de ses futures lunettes holographiques.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, le débrief de la tech, encore 10 minutes ensemble avant de retrouver notre start-up tout à l'heure, MWM, avec Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet de conseil de Lab36, Hugo Weber, directeur des affaires publiques de Miracle, et Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School. On termine en le futur des smartphones. Est-ce que peut-être, oui, non, c'est Apple qui nous sort des AirPods avec des écouteurs... une caméra intégrée. Voilà, c'est pour 2026. C'est une rumeur, mais comme d'habitude, je crois que c'est John Grumman. Enfin, c'est toujours une rumeur, toujours par celui qui sait avant les autres. Ça vous surprend? Enfin voilà, on cherche un peu à. Alors il dit ça va fonctionner avec le Vision Pro, ça va. Il y a beaucoup de petites fonctions qui sont.
Non, c'est pas surprenant. D'abord, chaque année, Apple dépose énormément de brevets qui ne mettent pas forcément en application, mais qui justement utilisent les wearables de différentes manières. Ce qui est assez malin, à nouveau, il faut toujours penser à la logique d'écosystème.
Oui.
Les appareils fonctionnaient entre eux. Donc, qu'est-ce que ça apporte de plus à l'expérience? Exemple typique, lorsqu'on a un Apple Vision Pro, on fait ça pour valider. Aujourd'hui, les nouvelles Apple Watch, tu peux faire la même chose. Oui. Donc, tu apprends, tu as une grammaire qui s'apprend. Là, l'idée de ce que j'ai compris, c'est en fait en caméra, on va dire un détecteur plutôt infrarouge, qui va permettre en fait de positionner dans l'espace encore plus précisément le AirPod, de telle sorte que associé à l'Apple Vision Pro, on pourra avoir une vision encore, enfin plutôt une audition encore plus immersive au regard de ce qui est regardé. C'est assez malin, c'est pas idiot, mais il y a déjà pas mal de capteurs qui sont sur le Vision Pro. Il y a déjà des capteurs infrarouges, donc c'est
assez
malin.
Même dans les AirPods, moi j'ai vu qu'ils allaient aussi intégrer des petits des neurosenseurs là pour aller voir un peu l'activité du cerveau.
Ça c'est un vieux truc qui traîne depuis un petit moment, effectivement. Ouais. Un brevet qu'ils avaient sorti qui était d'avoir des capteurs dans les AirPods pour pouvoir avoir du suivi en temps réel quand par exemple on va courir, pas forcément si on n'a pas forcément sa montre, pour avoir du suivi, etc. Ouais.
Alain,
La tendance globale, c'est de gommer la frontière entre le monde numérique et le monde réel. Donc c'est vrai que cette intégration de capteurs infrarouges, moi je crois ça vise tout simplement à développer, tu le disais, une gestuelle, une grammaire du geste à l'intérieur de l'écosystème Apple. Effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire avec son Apple Watch ou l'Apple Vision Pro. Là, on peut imaginer du coup des commandes spécifiques, gestuelles aussi pour ces écouteurs. Sachant qu'on voit aussi que tout ça se fait à grand renfort d'intelligence artificielle, parce que beaucoup de gens disaient non mais Apple est complètement absent du sujet. En fait, pendant très longtemps, Apple n'a jamais prononcé le mot intelligence artificielle en faisant en fait massivement partout. Aujourd'hui, sur les AirPods Pro, on est sur une adaptation en temps réel de la situation de l'individu. Si j'écoute ma musique et tout d'un coup je rentre en conversation avec quelqu'un, le volume s'ajuste automatiquement. C'est ces petites choses qui se font à grand renfort d'IA notamment et de compréhension du contexte qui font que on développe effectivement ce côté agréable d'utiliser l'écosystème d'Apple.
Hugo ?
Ouais, et puis l'IA, comme tu disais, c'est aussi de la donnée, des modèles et de la puissance de calcul. Et le fait de placer des capteurs, c'est aussi un très bon moyen d'aller récupérer de la donnée, et tout type de données. On le voit avec Tesla. Tesla, c'est un des seuls constructeurs auto à avoir mis des capteurs vidéo
partout.
Des caméras tout autour de la voiture, ce qui lui permet finalement, rien que par le fait de faire circuler ses voitures par les conducteurs, d'aller finalement mapper tout ce qui se passe dans le monde et là où ces véhicules vont. Bon, c'est aussi un moyen pour Apple de récolter de la donnée et du coup de se positionner de manière peut-être un peu différente dans ce monde de l'IA, peut-être moins sur la dimension des modèles dont on parlait avant et peut-être un peu plus sur la dimension donnée. Et c'est son grand avantage, c'est d'avoir du hardware au final. Et le hardware, vous l'utilisez tout le temps, que ce soit des AirPods. Enfin, je sais pas combien de temps ce que vous passez avec vos AirPods dans les oreilles. Moi, j'y passe beaucoup de temps, donc c'est quelque chose qui peut potentiellement collecter beaucoup de données en fait.
Et autre sujet, on reste toujours dans ces wearables. Là, c'est Meta qui fait le teasing de ses futures lunettes holographiques. Damien, c'est toi qui avais repéré cette
news. Oui, j'avais repéré cette news. Alors, d'abord, ce qui est assez intéressant, c'est que récemment, Meta a remis à plat sa division hardware en fusionnant justement tout ce qui était ancien Oculus avec les lunettes. Parce que la bonne surprise, un matin, Zuck s'est levé en disant « Tiens, j'ai une bonne surprise, ça tombe bien, les Ray-Ban Meta se vendent.
» Et elles se vendent même
très bien.
Toi qui es allé, Alain, dans la Silicon Valley, on en voit beaucoup, il paraît. Enfin,
On en voit beaucoup.
Ouais.
On en voit plus qu'ailleurs. Comme beaucoup d'autres produits, on voit beaucoup de Cybertruck, par exemple, beaucoup plus qu'ailleurs, évidemment. Mais pour le coup, tu fais bien de le souligner. Et c'est l'excellente nouvelle pour Mark Zuckerberg, parce que finalement, tous les milliards consentis en investissement sur les technologies du métaverse, quelque part, au moins, il y a ces lunettes qui peuvent, à un moment donné, émerger.
Et puis, c'est intéressant de voir qu'ils ont réussi à craquer quelque chose que d'autres n'avaient pas réussi. On pense au Google Glass, on pense au Spectre. Tackle de Snap, donc qui sont plus ou moins la même chose, mais voilà. Et donc là, l'étape
rappelle,
d'après,
c'est sur les Ray-Ban Wayfarer.
Ouais, tout
c'est
à fait.
Et puis voilà, et c'est assez fin.
C'est qu'en fait, ça ne déforme pas du tout le design des lunettes, vraiment. Donc c'est assez bluffant. Et donc l'étape d'après, c'est d'imaginer d'avoir de l'holographie ou tout le monde de la surimpression. On ne sait pas trop exactement parce que ça n'a pas été vraiment développé. Mais l'idée, c'est de dire ça. C'est maintenant, on va rajouter des éléments complémentaires sur les verres, faire en sorte d'avoir de la surimpression, d'avoir peut-être de la réalité augmentée sans avoir besoin d'avoir verres forcément.
Et si leur Luxottica, rappeler ce succès européen, puisque c'est italien et franco-italien.
Mais je trouve que ça aurait complètement du sens d'imaginer quelque chose qui soit de la micro-réalité augmentée, autrement dit quelque chose qui soit pas un truc énorme, mais qui permet d'avoir, là, sans avoir besoin de prendre son téléphone, de faire ça, de voir ça au travers de ses lunettes, ça me paraîtrait assez malin et assez logique. Mm-hmm. Après, la question, c'est le niveau de l'intégration. Aujourd'hui, il existe des lunettes qui intègrent des picoprojecteurs, etc., mais ça reste encore lourd, c'est dévoreur d'énergie, donc l'autonomie n'est pas énorme. Mais bon, je pense qu'avec le design qu'ils ont trouvé, enfin l'intégration qu'ils ont trouvé avec les lunettes Ray-Ban, il y a quelque chose qui se joue qui est assez intéressant. Dans tous les cas de figure, moi je l'ai essayé, hein. C'est un produit qui est très agréable à porter, qui est vraiment sympa.
Au point de garder son téléphone dans sa poche, bonjour Hugo.
À voir, en tout cas c'est ce que fait Laurent Baffy hein, quand il fait ses vidéos qu'il poste sur Instagram.
Je pense que c'est le sur YouTube et Instagram, c'est fait avec il a découvert ses lunettes et il fait ses...
C'est le meilleur influenceur pour les Ray-Ban Warfarer avec les caméras.
Bon, mais en tout cas, voilà ce qu'il fallait retenir un peu de ces futures lunettes holographiques. Et oui, comme on est toujours surpris hein, par Meta, on pense qu'ils sont passés à côté de quelque chose et finalement ils rattrapent. Hein, il y a quelques années, on se disait ça y est, c'est fini. Ils n'ont pas vu le mobile arriver et puis ils ont rattrapé. Instagram, les rachats de WhatsApp et d'Instagram sont quand même des coups de génie, il faut bien le dire. Hein, aujourd'hui, on voit comment ça se poursuit. Et puis. Ne jetons pas le bébé Facebook, hein, qui est un beau bébé, qui continue à bien fonctionner, qui se renouvelle aussi sans cesse. Et donc, pour la partie métaverse, ouais, tu l'as dit, avec ses lunettes, sans doute, voilà, donner un peu de dynamisme à ce marché. Messieurs, merci d'avoir été présents avec nous. Damien Douany, donc responsable de l'innovation de l'école narrative, fondateur du cabinet de Lab36, Hugo Weber, directeur des affaires publiques de Miracle, et Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School. Et on salue d'ailleurs le jeune Aymeric Goudet, hein, qui était en régie avec Léa, à nous suivre de près. Voilà,